Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Didier Roux. Didier Roux, je ne sais jamais s'il est physicien ou chimiste.
Je suis physico-chimiste.
Physico-chimiste. Donc, voilà. Et il est membre de l'Académie des sciences. Ce que j'aimerais discuter avec lui, c'est les divers aspects de sa vie, au moins sa vie scientifique. Je n'ai pas envie de rentrer dans des trucs trop personnels. En résumé, tu as commencé une vie de chercheur, entre guillemets, standard au CNRS. Puis, tu es devenu, non pas industriel, mais tu as travaillé dans la science en lien avec l'industrie. Et puis enfin, dans une troisième partie de ta vie, tu t'intéresses de près à tout ce qui concerne l'enseignement des sciences, en particulier à travers la main à la pâte. Alors j'aimerais bien qu'on passe rapidement sur ces trois aspects, qui sont complémentaires et en même temps très différents, ce qui fait que tu as eu trois vies en fait.
Didier est un rapide, alors pour illustrer sa personnalité, j'ai pensé qu'on pourrait utiliser le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov. Alors vous entendrez au violon Katika Ilieni, et au piano, un arrangement de Rachmaninov interprété par Rousseau.
Avant, pour bien comprendre la fin de l'histoire, il faut avoir un élément sur le début. Et sur le début de l'histoire, il faut savoir que j'ai été, pendant toute ma scolarité, un cancre. Et ça permettra de boucler avec l'histoire finale. Voilà.
Quand tu dis cancre, c'est vraiment cancre ?
C'est vraiment cancre jusqu'à peu près la terminale. Bon, après, en terminale, on va dire, je me suis réveillé, si on peut le dire. Et donc, je suis passé de cancre à meilleur élève et j'ai pu faire des études ensuite supérieures dans de bonnes conditions. Mais bon, jusqu'à la terminale, j'étais réellement cancre. Alors, j'étais pas un cancre parce que j'étais stupide. On ne sait jamais, mais c'est surtout parce que l'école m'intéressait pas, et donc je ne faisais rien, et donc quand on fait rien, les résultats se voient.
En aucune matière.
Alors, la seule matière où j'étais un peu moins mauvais, je dirais, c'était les mathématiques, parce que, comme je le dis souvent, pour moi, les mathématiques, et j'ai appris les mathématiques comme ça, c'est la science des paresseux, parce que j'avais vite compris qu'il suffisait d'écouter un peu pendant les cours, moyennant quoi on comprenait vaguement, on s'en sortait, et donc c'est le seul domaine dans lequel, effectivement, j'étais un peu moins mauvais. Tout le reste...
Je ne peux qu'être d'accord avec toi.
Ce qui n'est pas le cas de tous les mathématiciens.
Mais pour moi, c'était toujours la chose la plus facile à faire, qui n'impliquait à peu près aucun travail.
Voilà. Donc, voilà. Alors ensuite, effectivement, j'ai fait des études. Je voulais être professeur, en fait, au départ, enseignant. À l'école que j'ai faite, on m'a poussé à essayer de faire de la recherche. Et j'ai découvert le monde de la recherche, finalement, assez tard, en faisant une thèse. Et
De quel genre de milieu social ?
Plutôt bourgeoisie moyenne, aisée. Mon père était médecin. Et même si mes grands-parents étaient moins aisés, mais enfin, disons, j'ai eu une vie très confortable. Je suis plutôt d'un milieu bourgeois. Donc, je me suis passionné par la découverte de la science, rentré au CNRS, et puis ensuite une carrière de scientifique en physique statistique, la matière condensée, en faisant des choses qui, quelquefois, sont considérées comme relativement abstraites, mais aussi quelque chose. Concrète.
C'est de cette époque que datent tes contributions dans des matériaux un peu étonnants, qui ont des tubes partout, qui sont un peu
oui, fractales. Oui, tout à fait. C'est de cette époque que j'ai travaillé essentiellement dans un domaine, bon, je ne vais pas en parler rapidement, mais qu'on appelle les surfaces fluctuantes, dont le but est qu'est-ce que devient une surface très fine lorsqu'elle est soumise aux fluctuations browniennes. Et c'est une question un peu abstraite. On a la réponse pour les objets à zéro dimension, qui sont les atomes et les molécules. On a une réponse pour les objets à une dimension qui sont les polymères, eh bien, il n'existait pas à l'époque de réponse très claire sur des surfaces. Et ces surfaces, on peut les fabriquer avec des systèmes qu'on appelle auto-associatifs, qui sont des tensioactifs, du savon.
Est-ce qu'on peut dire que tu es dans l'école de Gilles de Gennes ?
Alors, bien sûr, Pierre-Gilles de Gennes a été, tout au long de ma carrière, quelqu'un que non seulement j'ai suivi, alors j'ai jamais travaillé directement avec lui au niveau scientifique, mais on a été impliqués ensemble à Rennes-Poulenc, qu'on a appris à se connaître, on s'est énormément apprécié, en tout cas moi, de mon côté, et évidemment, j'étais quelqu'un d'assez relativement proche de Pierre-Gilles.
Donc, pour simplifier, cette première partie de ta vie a duré combien de temps?
J'ai commencé ma carrière de chercheur dans les années 80, on va le dire comme ça, quand je suis rentré au CNRS, jusqu'à que je quitte le CNRS, mais beaucoup plus tard, en 2005, donc 25 ans après, où j'ai eu 25 ans d'une carrière fantastique, très heureuse, où une part de ma vie était consacrée à la recherche fondamentale.
Est-ce que tu étais le genre de chercheur un peu seul dans son coin ou...
Non. Comme je l'ai souvent dit, j'ai eu la chance de faire de la physique, parce que c'était quand même plutôt de la physique, qui était de la physique du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on était capable de faire des petites manips de coin de table, de faire des manips un peu plus sophistiquées en allant au synchrotron, diffraction des neutrons, etc. De faire aussi la théorie. J'ai toujours mené en parallèle des expériences, mais aussi de la théorie, très souvent en collaboration avec des collègues étrangers. Et donc, on bouclait la boucle. C'est-à-dire qu'on essayait de comprendre ce qui se passe et on donnait une explication théorique à la fin, ce qui est très satisfaisant d'un point de vue d'un physicien. Mais ça, avec une petite équipe de quelques étudiants et quelques collaborateurs. Donc assez limité.
Donc en résumé, c'est une partie de ta vie que tu ne regrettes pas, qui a été assez passionnante. Hein,
fantastiquement heureuse.
Qui s'est passé en partie aux États-Unis?
Alors en partie en France, en partie aux États-Unis, et puis un peu partout dans le monde, mais beaucoup aux États-Unis. J'ai passé un an à UCLA, un an dans le centre de recherche d'Exxon, d'ailleurs grâce à Pierre-Gilles Degenne, qui était à l'époque en relation avec ce centre de recherche. Et puis très souvent, je suis revenu à l'Institut de physique théorique de Santa Barbara, qui est un endroit merveilleux où il y a une mélange d'idées, alors plutôt pour les théoriciens, mais ça a été de nombreux séjours heureux.
Donc en 2005 à peu près, tu as la petite cinquantaine, ta vie change.
Absolument, et ça a été une décision un peu difficile à prendre parce que j'avais déjà eu des contacts avec le monde industriel avant, puisque j'avais créé des start-up et j'étais aussi directeur scientifique adjoint à Ron Poulenc, tout en étant aussi au CNRS. Et à cette époque, je menais de front plusieurs vies, une vie d'entrepreneur, une vie d'industriel et une vie de chercheur. C'était un peu beaucoup, j'étais un peu coupé en morceaux. Et effectivement, en 2005, lorsque j'ai eu la proposition de Saint-Gobain de devenir directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain mondial, j'ai décidé à 50 ans de changer de vie et de passer complètement du côté industriel.
Donc ta vie a changé de tout point de vue, c'est-à-dire d'abord ton activité a changé, le type de choses que tu faisais ont changé, mais aussi même ta vie personnelle, puisque tu habites Bordeaux et tu as dû voyager énormément. Alors, j'imagine.
Oui et non. Le vrai changement, c'était finalement l'abandon de la partie recherche fondamentale, que j'ai à peu près laissé de côté. Pour le reste, pas tellement, je voyageais déjà énormément. J'étais à l'époque aussi directeur scientifique adjoint de Ron Poulenc, donc en partie déjà dans le monde industriel. J'avais déjà pris des responsabilités collectives en étant directeur d'un gros laboratoire du CNRS. Donc pour cette partie-là, c'était mettre ce que j'aimais et mes talents au service de la communauté dans un endroit un peu différent. Mais le seul vrai changement, c'était l'abandon d'une petite équipe, d'avoir des étudiants et de travailler sur des problématiques un peu égoïstes de recherche fondamentale. Pour le reste, ma vie ne changeait pas finalement beaucoup, à part des préoccupations dans un monde un peu différent de celui que je connaissais parce que j'étais un peu plus exposé dans le monde industriel.
Donc tu as dû t'intéresser à quoi? À des questions financières, beaucoup plus qu'avant, j'imagine.
Alors, oui, mais le vrai enjeu pour un directeur industriel d'un grand groupe, ce sont il y a trois types d'enjeux. Il y a un enjeu d'organisation. On est à la tête d'un système. Dans le cadre de Saint-Gobain, il y avait environ 3500 chercheurs de par le monde, partout dans le monde. Et il faut organiser le système pour qu'il fonctionne. En tête, évidemment, de réflexion sur les programmes de recherche existants et de décision si on continue ou pas à les garder ou à les financer. C'est un peu différent du monde universitaire de ce point de vue-là. Et surtout, un travail de prospective, c'est-à-dire d'essayer de décider dans quelle direction on va pour le plus tard, où est-ce qu'il faut engager des ressources pour préparer le futur, à la fois d'un point de vue des connaissances, mais aussi évidemment d'un point de vue des marchés, c'est-à-dire là où on pense qu'il y aura des choses à faire.
Est-ce que pendant cette période donc plutôt industrielle, complètement industrielle, est-ce que tu as réussi à garder un contact au moins passif avec la recherche fondamentale?
Oui, bien sûr. D'abord parce que c'est un monde que je connais bien et qui est une passion. Donc d'abord, Saint-Gobain a beaucoup développé des relations avec énormément de laboratoires de recherche fondamentale. Alors quand je suis arrivé, c'était beaucoup en France. J'ai énormément internationalisé ces relations aux États-Unis et dans d'autres pays avec effectivement ce qu'on appelle des contrats recherche avec des laboratoires qui sont des laboratoires publics, des universités ou d'organismes de recherche. Ça, c'est évident. Et puis, j'ai eu la chance d'être élu à l'Académie des sciences, je crois, en 2007. Donc, j'étais déjà directeur de la recherche de Saint-Gobain. Et j'avoue que je suis rentré dans cette belle maison et que ça m'a servi énormément pour garder des contacts avec le monde fondamental et surtout une ouverture sur des tas de domaines scientifiques que je connaissais moins, qui n'étaient pas liés à ma spécialité scientifique de départ et qui m'a donné énormément d'idées et a contribué à ma culture scientifique de façon importante. Voilà. Donc j'ai bien gardé les pieds dans la recherche fondamentale.
Est-ce que réciproquement, ta présence au sein de l'Académie des sciences a percolé et a permis à certains de nos scientifiques abstraits, comme moi par exemple, d'avoir une perception différente ?
D'abord, c'est pas à moi de le dire, c'est à vous, aux autres membres, puisque je suis un peu un cas un peu bizarre, parce que même s'il y a beaucoup d'autres académiciens qui ont contribué par des start-up, il y en a peu qui ont occupé des fonctions importantes dans des grands groupes industriels, donc j'étais un peu à part, mais je me souviendrai toujours des longues discussions que nous avons eues avec un homme que j'ai retrouvé absolument remarquable, qui est Jean-Pierre Kahan, qui était assez opposé. Au début, on a commencé à s'opposer sur le crédit impôt recherche, dont j'avais une vision plus industrielle et lui, évidemment, plus universitaire. Mais je me souviens de discussions, on est allé déjeuner, on a passé dans le... Et finalement, sur des bases très différentes, on s'entendait très bien. J'ai adoré discuter avec lui. C'était d'abord un homme d'une très grande ouverture d'esprit. Et je ne sais pas si je l'ai fait évoluer, mais en tout cas, il m'écoutait avec attention et intérêt, et moi, je l'écoutais avec passion et admiration.
Je suis ravi que tu parles de Jean-Pierre Kahan. Peut-être que je peux dire deux mots sur lui.
Hein. Bien sûr.
Donc Jean-Pierre Kahan était avant tout un mathématicien qui a commencé sa carrière dans ce qu'on appelle l'analyse harmonique, et puis ensuite, il s'est spécialisé dans les probabilités. Ce qui le caractérise, c'est que toute sa vie, il a lutté politiquement. Il était membre du Parti communiste jusque sa mort. C'était un homme extrêmement cultivé, très ouvert et très impliqué dans des questions d'éducation, des sciences en général, mais aussi plus précisément des mathématiques. Je regrette de ne pas pouvoir le podcaster aujourd'hui. Continuons précisément sur ta troisième volet de ta vie, et qui d'ailleurs se lie un peu avec Jean-Pierre Kahan, l'enseignement. Question, est-ce que tu t'es intéressé à l'enseignement des sciences parce que ta femme est institutrice ?
Alors, c'est effectivement, mon épouse est professeure des écoles et a été directrice d'école maternelle et primaire, mais en fait, la vraie raison, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai passé ma scolarité en subissant l'école, et j'ai ensuite eu la chance de faire des études et de faire autre chose, qui est de la recherche, et de découvrir la science par le monde merveilleux, d'essayer de comprendre comment le monde nous entoure, et ça, c'est splendide, et je ne suis, quand j'ai pris des responsabilités industrielles, je me suis toujours dit que j'avais quelque part une sorte, pas de mission, mais un intérêt pour remplir, me réconcilier avec le monde de l'éducation nationale et de l'enseignement, qui m'avait laissé assez indifférent, compte tenu de la chance que j'avais eue au cours de ma vie. Et c'est vrai que mon épouse, que je voyais utiliser des méthodes qu'on appelle des méthodes d'investigation en tant que professeur des écoles, j'ai toujours expliqué que j'aurais bien aimé avoir mon épouse comme maîtresse. C'est-à-dire que si j'avais eu ce type d'enseignement à l'école, j'étais à peu près certain que je puisse m'intéresser, je me serais intéressé beaucoup plus à l'école si les méthodes que j'avais subies n'étaient pas les mêmes, mais étaient des méthodes qu'on appelle actives, qui consistent à impliquer les élèves dans les questionnements que pose l'éducation. Et donc, comme il y avait à l'Académie des sciences la fondation La Main à la Pâte, j'avais en tête de façon très précise que le jour où je prendrais ma retraite, eh bien, j'irais rejoindre les gens qui travaillaient à la fondation La Main à la Pâte pour, finalement, au lieu de critiquer l'école, essayer de l'aider.
Très bien. Donc, je précise pour les auditeurs que tu es maintenant le président, c'est ça le titre ou directeur ?
Oui, président. Non,
président.
Je ne sais pas. Président de la fondation La Main à la Pâte.
La fondation La Main à la Pâte, et que tu agis de manière très active. On parle beaucoup en ce moment de mathématiques et du rôle des mathématiques au lycée, même si nous sommes tous d'accord pour dire que le problème crucial est à l'école primaire. Est-ce que tu crois que pour motiver les jeunes à faire plus de maths, il est utile de leur dire qu'ils vont être ingénieurs ?
Alors non, je pense pas que l'objectif. Je suis pas du tout convaincu qu'il faille donner une illustration d'une profession qui est par ailleurs très utile et très noble et qui utilise les mathématiques pour motiver. Je pense que le point principal, c'est de comprendre une fois pour toutes que les mathématiques font partie de la science, que la science fait partie de la culture et que tout citoyen, quel qu'il soit, se doit de ne pas être effrayé par le monde scientifique et le monde des mathématiques. Simplement parce qu'à l'école, ils ont eu quelques difficultés. Et donc, fondamentalement, le principe même de l'enseignement des mathématiques, des sciences et de toute discipline à l'école, c'est de cultiver les citoyens pour leur donner un socle de connaissances qui ne s'arrête pas ni aux mathématiques, ni aux français, ni à une discipline, mais à un ensemble. Ensuite, bien sûr qu'il faut que les gens qui étudient les mathématiques, en particulier les jeunes enfants, comprennent que c'est utile. Le but des mathématiques, ce n'est pas un exercice de pensée gratuit. C'est utile à tous les niveaux, y compris dans les professions, y compris dans celles d'ingénieurs, mais pas seulement. Et je pense que l'utilité de ce que l'on peut apprendre est effectivement une motivation. Alors, ce n'est pas forcément la seule, il y a la curiosité, etc. Mais avant tout, faire comprendre que les mathématiques sont utiles, quelle que soit, je dirais, la profession qu'on utilise, est évidemment à la base même de la motivation que l'on peut donner aux élèves. Merci Étienne.
Petite histoire de science. Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.